Bonsoir à tous et bienvenue dans Champion des Ondes, votre émission bimensuelle, mensuelle, ça dépend de notre rythme, sur le sport à Orléans, j'espère que tout va bien. Je ne suis évidemment pas tout seul pour notre dernière émission de l'année 2025, je suis bien évidemment accompagné de Guillaume. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Pierre, bonsoir Malo, bonsoir à tous, ça va ?
Eh ben écoute, très bien, hein, en pleine période de révision, on prend un petit peu de notre temps pour venir discuter de sport. Et donc tu l'as dit, nous avons évidemment avec nous le grand et l'unique Malo. Salut Malo, comment ça va ?
Salut, salut Pierre, salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous, et très heureux ce soir pour la dernière de l'année 2025.
Ben ouais, on a pris un rythme un petit peu en dents de scie. Durant cette...
On a une raison.
Ouais, depuis ce début de saison 2025-2026, on a eu...
Non, on a été très régulier au début. Hein.
Au début, on a été régulier, et puis là, ça fait un mois. J'ai vu, on a raté, je crois, trois semaines, mais une seule émission.
Oui, donc, en fait, une seule émission, parce que décembre, c'est cinq semaines. Et évidemment, on ne fait pas celle du 29.
Mais non, parce qu'on n'est pas là.
Bon, on est juste puis, pas sur Orléans.
Et puis, voilà, donc... Dernière émission de l'année, on est là pour venir discuter et faire un petit bilan de cette mi-saison, parce qu'on arrive déjà à la moitié de saison, en fait,
ça passe si vite.
Ouais, ça va quand même super vite, il y a de ça, pas tant de ça, on faisait pas tant de temps que ça.
Oh, c'est si bien dit.
On faisait nos petits pronos pour le début de saison, et là on se retrouve pour faire un premier bilan à mi-parcours, mais avant ça, Guillaume, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté d'Orléans.
Ouais, on va commencer par les Sceptors. Les Sceptors qui sont invaincus en Pro League et en Coupe de France depuis le 17 octobre, avec notamment, c'était la semaine dernière, la magnifique victoire en Coupe de France contre Limoges. Victoire de plus 4 buts, Malo, c'est ça, il me semble.
Une victoire magnifique, 41 buts placés à une équipe qui est littéralement quatrième de Star League. Star League qui est la première division de handball en France. Et donc les Sceptors, vous le savez, jouent en Pro League, deuxième division. Ils sont pour l'instant 8e, ça on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et ils nous ont sorti un match parfait. Et on pensait le meilleur match de la saison jusqu'à le dernier match de Pro League. Et je pense que tu vas nous en parler.
On peut en parler, exactement. On peut en parler, c'était contre, j'ai oublié le nom, Pau, contre Pau.
C'était contre Pau,
avec une première mi-temps magnifique, plus 9 à la mi-temps il me semble, 19-10 pour une victoire finale 36-29, c'était au Palais des Sports. Et donc les handballeurs des Sceptors reviennent à plus que quelques points de la tête du classement de Pro League avant un gros match contre Cournon d'Auvergne, ouais. Qui est premier, il me semble, de Pro League.
Ouais, Cournon qui est premier, il y a deux équipes à 18 points, les Sceptors y sont à 16 points, et donc une victoire c'est 2 points. Donc il y a 8 équipes de Pro League qui se tiennent en une victoire, donc un match ultra important, et vu la dynamique des Sceptors, on est très heureux que ce match arrive tout de suite.
Et donc il restera encore au moins un match de Coupe de France pour les Sceptors, en quart de finale, contre un adversaire qu'on ne connaît pas encore, mais les Sceptors peuvent tirer quand même un gros club, le PSG, Nantes ou encore Montpellier.
Ça sera début février, les tirages.
C'est la deuxième équipe de Star League quand même qui sort cette année après Tremblay.
Après Tremblay, mais alors on en a un petit peu parlé avec Louis, et c'est une vidéo qui arrive normalement mercredi sur la chaîne Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner, Malo Kervran. Voilà, là ça s'est fait pour la petite pub. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la différence entre la Pro League et la Star League, et Louis Cruz insiste justement sur le fait que cette ligne soit de plus en plus fine, que les Sceptors ne soient pas la seule équipe à tenir des clubs de Star League. Il y en a 3-4 qui sont passés, dont Massy, qui sont passés en 32e de finale. Donc ça veut dire qu'en 64e, ils ont forcément battu un club de Star League. Donc franchement, Massy qui est dernier de Pro League, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Il y avait Sainte aussi qui est avant-dernier de Pro League, qui tenait son match avant de le perdre dans les deux dernières minutes. Donc c'est vraiment des équipes qui sont très proches, hormis, et ça il a bien insisté là-dessus, hormis Nantes et... Nantes, Paris et Montpellier qui sont vraiment les trois équipes au-dessus de tout le monde, mais sinon on peut battre chaque équipe de Pro League peut battre une équipe de Star League.
Après on peut quand même relativiser un petit peu cette victoire, enfin ces deux victoires, puisque on se doute quand même.
Ah, je pense pas.
Ah non, mais ça me surprend pas de toi, tu vois. Non, mais il faut.
Non, moi je suis d'accord avec Malo en vrai quand même.
Je pense pas,
donc,
sincèrement.
Vous pensez que les équipes de Star League, quand elles viennent, par exemple, elles viennent à Saran, elles jouent
oui.
le match.
Là, alors. Faut savoir que le match de Limoges et Saran se sont rencontrés en préparation, et Limoges a mis 8 buts à Saran. Et donc ce que Louise disait aussi en conférence de presse, c'est qu'ils y sont peut-être allés peu moins fort que d'habitude, mais c'était l'équipe première. C'est quand t'es mené, parce que Saran a mené quasiment tout le match. Un bout d'un moment, normalement, même à la mi-temps, tu reviens gonflé à bloc parce que le match t'échappe. Les Septors menaient à la mi-temps et Limoges n'a jamais su revenir. Et à la fin, c'est 41 buts quand même. 41 buts, ouais. C'est énorme.
Mais alors, ne surtout pas minimiser la performance des Septors. Alors, non, mais évidemment,
non, mais sincèrement, évidemment, et on avait surtout peur que ça fasse comme Tremblay en début de saison, on en a parlé. Donc les Septors qui battent au tir au but une équipe de Tremblay de Star League, et on s'est enflammé pour le début de saison. Les Septors ont fait le pire début de saison des 5 dernières années. Donc Louis avait sincèrement peur, et là contre Pau, c'est la meilleure première mi-temps que les Septors auraient pu faire. Alors j'étais pas au match, c'est Martin Lotte de la République du Centre qui m'en a parlé dimanche, mais selon lui, ouais, c'était la meilleure première mi-temps de la saison pour les Septors. Donc ils sont sur une vraie dynamique. Cournon, c'est que 2 points. Cournon qui est un peu moins bon en ce moment. Et on va surtout retrouver Basile Pietre, qui est l'ancien meneur formé à Saran. Et donc, il va retrouver tous les jeunes avec Malo, etc. Malo, Lutumelin, Salomon, qui joue aussi en équipe de France. Donc, tous les jeunes là formés à Saran se retrouvent... c'est quand? C'est vendredi?
Oui, il me semble que c'est vendredi.
Vendredi au Palais des Sports. Et il y aura du monde. De ce que je sais, il y aura du monde au Palais des Sports. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est le match de l'année 2025 pour les Septors, ça c'est sûr.
C'est intéressant de voir les Septors rebondir après leur, tu le disais, leur début de saison qui était quand même catastrophique.
Début de saison horrible, oui.
On avait parlé ici à cette antenne. C'était un début de saison compliqué. Et on s'inquiétait sans non plus tirer de conclusion hâtive. Parce qu'on le sait.
Bon, on parlait quand même de la démission de Louis potentiellement.
Oui, c'est vrai.
C'est arrivé sur la table.
C'est vrai qu'il y avait.
Les Septors jouaient le maintien au début, donc oui, non, sincèrement, c'était compliqué, et au final, ils ont su montrer qu'ils avaient du caractère, et je pense que pour monter cette saison en Pro League, alors ils font aussi, enfin, ils ont de la chance, parce que les autres équipes devant ne gagnent pas tout, et c'est très serré cette année, donc ils en profitent aussi, mais non, les Septors avaient quand même enchaîné pas mal de défaites.
Et là, ils sont donc sur 7 matchs sans défaite en championnat, et ça va être intéressant de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller, et on l'espère... Pourquoi
très
pas
loin, très
battre leur série de l'année dernière qui était de combien de matchs? Est-ce que vous vous souvenez de combien de matchs? Pour moi, c'est 11
ouais,
matchs.
J'ai 11 aussi et défaite sur le 12e match.
Ouais, donc en fait, ils sont pas forcément
Dijon,
si loin.
Dijon ou Caen?
C'était les Vikings, c'était à Caen.
Ouais. Et bah, hâte de voir jusqu'où cette équipe va pouvoir aller. Ça passe, du coup, tu le disais vendredi, par la réception du leader.
De Cournon. Et il faut absolument pas perdre. Il faut garder cette dynamique. Après, il y a la trêve. Et il faut savoir que la trêve au handball, ça dure assez longtemps parce qu'on reprend par la Coupe de France. Donc en fait, tout janvier, il n'y a pas de match.
Ils jouent pas pendant
début février, il n'y a pas match non plus. Et ça arrive deuxième semaine de février, il me semble.
Ils vont pouvoir prendre des sacrées vacances.
Donc ouais, c'est grandes vacances. Bah, il y a 13 ou 14 équipes. Il y en a 13 parce que le 14e n'est pas monté. S'il y en a 13 ou 14 en Pro League, je sais plus. Je sais plus ce que la Ligue a donné. Non, mais parce que il y a des clubs qui ont été rétrogradés en début de saison.
Il y a 15 équipes.
Il y en a 15, donc oui, il devait en avoir 16, donc il y en a que 15. Voilà, ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça. En plus, il y a un match où t'es exempt, donc ouais, ça fait une longue pause.
Et puis cette semaine, je crois, la semaine dernière, l'information est sortie pour le prochain Comet des Septors. Ce sera Claudio Capéo.
Ouais.
Mi-février, je crois. Du coup, pour le prochain Comet, alors j'ai plus en tête l'équipe qui jouera.
C'est le 17
ouais,
non, j'ai le 17 en tête, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça.
Février? Ouais, ce serait bien quelque chose comme ça. Claudio Capéo, du coup, qui a été annoncé après.
Vous êtes heureux?
Après Franglish. Oh, on n'est pas forcément.
Emballé?
Non,
je ne connaissais
13 février.
Pas cette personne.
Tu connaissais 13 pas? Mais si.
Si, non, mais je suis.
Capéo, voilà, de nom.
Cite-moi une musique de Claudio Capéo.
Si, il y en a une, bien sûr, là. Si, oh là. Attention.
Voilà.
Non, mais après.
Voilà, il n'a toujours pas donné de nom.
Tout le monde est venu déjà au Comet après Septembre. Je veux dire, qui est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Gims, c'est fait. Big Flo,
oui, c'était le souci. Bon, toujours pas d'artiste féminine. Ça, on peut que le pointer du doigt. Après, on en a parlé avec Corentin, donc celui qui gère la communication des Septembre. C'est juste qu'il n'y a pas, il n'y a personne en fait. Il n'y a pas de candidate potentielle. Soit c'est des personnalités qui sont très connues, trop connues, donc trop chères. Soit c'est des personnalités qui vont pas spécialement attirer du monde, et il n'y a pas assez de candidates, donc on le regrette, et on espère que, parce qu'il reste un dernier artiste, il y en a 4 cette année, donc on croise les doigts pour que ça soit
ce sera une femme. Contre Frontignan, je crois. Hop, ouais, c'est
le
ça.
Match, lequel?
Le match
de
Claudio Capéo,
donc c'est le 13,
le 13 février,
donc le match de Coupe de France, c'est la semaine d'avant, voilà,
et ben voilà.
Comme ça, vous avez toutes les informations.
On enchaîne ?
On reste à Comet.
On reste à Comet.
On passe à l'OLB. L'OLB qui est en train de vivre une période un peu plus difficile en ce moment. Ils ont perdu leurs deux des trois derniers matchs qu'ils ont disputés en Elite 2, dont une grosse défaite à Denain ce week-end, 97-72.
Match qu'ils n'ont pas joué. Hein.
Ça rappelle un peu la grosse claque qu'ils avaient pris à Pau en début de saison. Il me semble que c'est leur troisième ou quatrième défaite de la saison. Et donc ils glissent à la seconde place en Elite 2, juste derrière Blois. Qui reprend du coup, ils sont à égalité, mais Blois, au différentiel et devant. Et ils jouent d'ailleurs un choc, c'est vendredi soir,
c'est en même temps que les Septors.
C'est un peu dommage, contre La Rochelle, qui est entraîné par Germain Castano, qui est l'ancien entraîneur de l'OLB, qui avait fait 10 ans à l'OLB avant d'être remplacé par Lamine Kébé, qui fait un très très bon travail du côté de l'OLB. Dans une saison qui est plutôt très très bonne pour les joueurs de l'OLB, mais
très très bonne à domicile.
Dans un championnat qui paraît quand même plus faible, on a l'impression que les années passées, on a l'impression que là c'est vraiment l'OLB et Blois peut-être qui se tirent la bourre devant. Derrière, il y a un peu moins de concurrence. Là où l'année dernière, il y avait une équipe de Boulazac par exemple qui était vraiment très très forte. Et c'est vrai que du côté de l'OLB, en plus, on a des matchs non seulement à domicile qui ont tendance à être un peu difficiles à gagner un peu au forceps. Et c'est pareil à l'extérieur, là ils ont perdu, ils ont pris une claque à Denain, on sait qu'ils en avaient pris une à Pau en début de saison, et globalement ils ont du mal à l'extérieur. Ils ont perdu aussi à Hyères-Toulon.
Les deux derniers matchs à l'extérieur, c'est des défaites.
Ils ont perdu, ouais. Ils ont perdu, et avant ça, ils avaient gagné de 2 points contre Chaland là-bas, qui est promu.
Je pense qu'il y a un vrai souci de public et d'accompagnement à l'OLB, c'est-à-dire que Comet, ça fait du bruit. Eux, ils n'ont pas d'artistes, mais ils font 7000 personnes chaque match.
La plus grosse affluence moyenne de France.
La deuxième plus grosse, si on compte Paris Basket, qui est en élite.
Et donc la première d'élite 2
est de très très loin.
Il n'y a pas photo.
Et de très très loin. Donc ça pousse à domicile, mais c'est vrai que du coup à l'extérieur, là le dernier match c'était vraiment catastrophique quoi.
En termes d'ambiance tu parles
ou
en
Non, le dernier match à l'extérieur.
Ah oui, ok.
Le dernier match à l'extérieur.
C'était où
Ils ont perdu ce week-end à Denain. Denain-Voltaire, c'est dans le nord.
C'est
dans le nord. Et avant ça, ils avaient joué à Comet contre Évreux, où pareil, ils se sont fait peur pendant tout le match. Et finalement, ils font un troisième carton énorme et ils gagnent de 13 points, donc c'est assez tranquille. Mais c'est vrai que c'est une saison où ils gagnent beaucoup, mais où le contenu parfois est un peu compliqué. Ils ont tendance à se faire accrocher. Ils gagnent finalement sur le fil avec un. C'est vrai qu'ils ont quand même un collectif qui est très fort. Mais il va falloir voir sur la durée, notamment par rapport à Blois. Et il va surtout falloir éviter de faire les playoffs avec une équipe de Betclic Elite qui redescend encore cette année. On l'a vu que l'année dernière, c'était quand même un sacré.
C'était un sujet même.
C'était vraiment très très dur de battre une équipe de Betclic qui redescend. Là, je ne sais pas qui serait en mesure de redescendre, faire les playoffs. Mais de toute façon, c'est un peu tôt pour le dire déjà. Mais ouais, c'est vrai que si l'OLB peut monter, parce que c'est l'objectif, sans les playoffs, ce serait quand même une aubaine pour s'éviter une fin de saison qui peut être galère. Hein.
Après, tu parlais justement du championnat qui paraissait plus faible. J'ai l'impression que Blois aussi se fait peur sur pas mal de ses matchs.
Ouais, c'est ce que j'ai vu. Là, ils ont eu chaud encore ce week-end aussi.
Faudrait surtout voir si c'est pas le championnat qui s'est peut-être plus harmonisé.
Ouais, à mon avis, il est très dense, il est très homogène. Et on a du mal, en fait, à prendre une ou deux équipes qui sont vraiment beaucoup plus fortes. Et à l'inverse, il y a Chaland qui a une victoire seulement depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que l'OLB a joué là récemment contre Caen qui est 15e. C'était à Comet et ils ont eu du mal aussi. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui est très dense. Il y a eu l'ASA qui a fait finaliste de play-off l'année dernière, qui avait joué contre le Portel en finale pour accéder à la Betclic Elite qui est 12e. Donc on voit que c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, à domicile comme à l'extérieur. Donc ouais, c'est vraiment un championnat très intéressant, je trouve, l'Elite 2 maintenant. Mais c'est vrai que c'est la tendance à être de plus en plus homogène là, cette année.
Et on en reparlera, mais début janvier, c'est le 11, il me semble, le choc contre Blois à Comet. Ouais. Donc ça risque aussi d'être très chaud. Potentiellement la première défaite, parce que je vois mal l'OLB perdre ces deux matchs à domicile à Comet en fin d'année. Donc je pense que Blois aura cette envie-là, surtout pour le derby.
Ouais, il y avait déjà eu un derby un peu cette saison, au début en coupe. qui avait été remporté par Blois. Je sais plus quoi, à quel score, mais en fait.
Et ils ont battu aussi à Blois, je crois, en Elite 2, il me semble. Je crois pas qu'ils se sont. Je crois pas qu'ils... Enfin, je crois que l'OLB, justement, est déjà allé à Blois en début d'année en Elite 2.
Non.
Donc là, ce serait la phase aller en janvier,
ouais.
Ce serait la
okay. Ouais, phase aller et retour à Blois le 11 okay. avril.
Ouais, donc c'était en coupe, ouais.
Et à noter aussi la nouvelle recrue, Joustapha Bilo, un pivot qui est venu
renforcer un peu.
Qui est venu renforcer apparemment en peur de blessure et départ de sélection. Donc,
ouais, il y a eu Vincent Van qui a été recruté cette année, qui s'est blessé. Nathan Kouta qui est international néerlandais.
Qui part en sélection.
Et donc il s'était retrouvé à l'entraînement sans aucun pivot. Donc le staff voulait un peu renforcer le secteur.
Ça montre aussi des ambitions, je trouve, de la part de l'OLB.
Ils essaient de tripler un peu les postes en restant toujours dans la philosophie de jeunes joueurs à potentiel. Il me semble que c'était un joueur qui était au Pôle France avant, qui est parti au championnat universitaire américain et qui a eu beaucoup de blessures aux États-Unis et qui est revenu donc là en France. On va voir ce qu'il donne, je ne connais pas du tout.
Je rebondis un peu en retard sur les playoffs. Et là, pour l'instant, c'est Le Portel qui est dernier de Betclic Elite à une victoire cette saison.
Donc, ce serait l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier qui vient.
C'est l'avant-dernier qui descend. C'est Gravelines-Dunkerque, exactement. Ouais. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a l'air quand même d'avoir un immense gouffre entre la Betclic Elite et l'Elite 2. Parce qu'en fait, Le Portel, qui était donc avant-dernier l'année dernière, quand ils sont venus en play-off, ils ont un peu écrasé tout le monde, dont l'OLB en demi. Et, et là, aujourd'hui, ils sont à une défaite.
Une victoire et
10 défaites.
Doulazac, qui a écrasé son championnat de Pro League parce qu'ils ont quasiment tout gagné, sauf la Coupe. Mais Boulazac, qui est 13e, mais lui, ils ont seulement 3 victoires.
Et encore, ils font des bons matchs, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gouffre. Ils font des individualités qu'ils n'ont pas forcément, un budget qu'ils n'ont pas forcément non plus. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un gap énorme entre les deux. Les deux niveaux.
Après, ça se trouve sur une saison d'élite, faudra toujours jouer à domicile, quoi. C'est-à-dire que tu mises tout sur ton public et t'essayes d'emmener des matchs soit aux prolongations, je pense qu'il faut plus miser sur les victoires à domicile, quitte à.
Puis après, ils auraient quand même un beau budget, l'OLB, s'ils montent, parce que là déjà, ils ont le plus gros budget d'Elite 2. S'ils montent, je pense qu'ils auraient un budget encore plus gros, donc il y aurait quand même de quoi construire une équipe sympa. Mais c'est vrai que si on compare à Paris, à Monaco, etc., il y aurait quand même un gouffre énorme.
Ouais, il va falloir attendre quelques années quand même pour voir cette équipe orléanaise essayer d'aller chercher au moins un milieu de tableau.
S'ils montent, il va falloir essayer de subir l'année, mais le moins possible pour essayer de se maintenir et ensuite essayer de perdurer.
Parce que c'est vrai qu'on parle surtout de la montée, que ce soit l'USO, les Septors ou l'OLB, mais le plus dur c'est d'y rester une fois qu'on est monté.
C'est ça, parce que c'est pour dire l'ascenseur tous les ans.
La difficulté qui est de perdurer dans un championnat d'élite français, quoi.
Tout à fait.
N'importe quel sport confondu.
On peut passer au RCO. Le RCO qui a fait la semaine dernière, le week-end dernier, son premier match au stade de la Source, c'était contre l'équipe de Valence d'Agen. Ils ont remporté le match 36-27 devant plus de 4700 spectateurs. Valeureux parce qu'il faisait très très froid. Mais ils ont pu voir un très beau match avec une très belle équipe aussi de Valence d'Agen, il faut le dire. Mais par contre, les joueurs du RCO ont perdu hier. C'était en déplacement du côté de Grouillet, dans le sud-ouest. C'était le premier match des matchs retour. Avant donc l'énorme réception qui aura lieu le deuxième week-end de janvier, il me semble. Ça va être le 10 ou le 11 contre Salle, qui est premier actuellement. Donc le premier contre le deuxième. Et je ne sais pas encore si ça aura lieu au stade de la Source
Il rejoue au moins deux matchs d'ici à la fin de saison.
Ça devrait avoir lieu au stade de la Source.
C'est quand le match
Il me semble que c'est le 10 janvier, je vais te
dire
ça.
Parce que je sais qu'il y a un souci de match de Coupe de France potentiellement.
Bah oui, c'est ça, il faut voir aussi.
Si l'USO passe, c'est l'USO qui a la priorité, mais on ne sait pas si c'est le 10 ou pas le 10.
Ok.
Et ça va dépendre du tirage, et inutile de vous dire que c'est Paris Saint-Germain.
Et s'ils gagnent ce week-end déjà.
Ce sera
de la Source, ils joueront pas.
Il faut qu'ils gagnent ce week-end.
On en reparlera, mais ils gagneront.
Tiens, attends, je vais te dire ça, c'est le...
Hop, défaite.
Alors moi j'ai 10, le 10.
10 janvier, à 19h. Samedi soir.
Ouais. Bah ça va donc dépendre, ça va dépendre de la Coupe de France.
Ouais, la Coupe de France pour l'USO.
La Coupe de France pour l'USO, qui joue ce week-end contre Dieppe, encore une fois au stade de la Source, pour le compte des 32e de finale. On rappelle que l'USO a battu Bayonne au stade de La Source, est allé gagner à Saint-Jean contre une équipe de régionale dans un match qui était un peu compliqué. Et donc, ils reçoivent Dieppe, qui est pensionnaire de National 2, qui est quatrième de son groupe de National 2.
Quatrième de N2, ouais.
Et qui est venu déjà dans,
et qui a
dans
perdu,
la région orléanaise.
Qui a perdu contre Saint-Privé 3-0 en début de saison. Donc, ça peut que donner de l'espoir. Après, attention, c'est un match de Coupe de France. Peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, parce qu'on fera le bilan des saisons, etc., de chaque club. Mais ouais, va falloir... c'est un match de Coupe de France. Très heureux que ça soit au stade de La Source, c'était le plus important. Et on s'est un petit peu fait avoir sur le tirage, parce que évidemment c'était par zone. Comment vous dire que la FFF a décidé dans une zone de mettre l'USO avec le Paris FC, etc., mais sans le Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas le principe.
Non, parce que Paris SD et Paris FC,
c'est loin, super loin, c'est au moins 20 mètres. Donc je crois qu'il y avait Lorient, il y avait Amiens, un truc comme ça, avec le tirage de l'USO. Enfin, tout ça pour essayer de rééquilibrer. Donc du coup, dès le début, on ne pouvait pas avoir le Paris Saint-Germain. Donc très heureux que ça soit une équipe de National 2 qui soit tombée au stade de La Source. Mais il fallait absolument que ça tombe à La Source. Et justement, c'est tombé à La Source contre une N2. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que je trouve que c'est moins compliqué qu'une équipe de régionale. Dans le sens où une équipe de régionale, on peut y aller un petit peu avec des pincettes. N2, National, c'est sincèrement le même niveau. En tout cas, technique, etc. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Sachant qu'ils sont quatrième de N2. Et surtout que Saint-Privé, j'espère, donnera quelques astuces.
On espère, en tout cas. Voir l'USO aller le plus loin possible et puis recevoir une grosse équipe de Ligue 1, de Ligue 2, ce serait sympa quand même, comme il y avait pu avoir le PSG il y a 2 ans.
Et chose qui est sûre, c'est que s'ils passent en 16e de finale, il n'y aura plus ces zones, enfin. Donc on pourra potentiellement jouer contre le Paris Saint-Germain. Et même toute autre équipe de Ligue 1. Le PSG vient assez souvent, je trouve, à La Source pour... pas voir le PSG tous les ans en Coupe de France, il faut comprendre. Mais si on peut sortir l'Olympique de Marseille. Sincèrement, match de rêve. Là, on peut le dire. Je pense que. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun monde où ça passe. Tu vois, on est le 15 décembre. Si l'USO passe, que Marseille passe, que l'USO rencontre Marseille, ça veut dire que si. Club de Ligue 1, c'est forcément au stade de La Source.
C'est l'USO. Vrai, non
de quoi?
C'est quand même possible, non?
Oui,
Oui, en fait, parce que l'USO joue contre Dieppe, on comprend. Marseille, le club du régional, c'est. Non, mais sincèrement, l'USO par favori. Bref, on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, on croise les doigts en tout cas pour une bonne saison de Coupe de France et ne pas se dire que le match est gagné, ça c'est le plus important.
Est-ce que tu as fini le récap, Guillaume?
C'est bon.
Moi, je voulais faire un petit point parce que je suis les comètes.
On peut parler des comètes.
Depuis le début de saison, elles sont imprenables.
C'est imbattable.
Elles ont perdu leur premier match à domicile, je crois. Et depuis, elles gagnent tout le temps. Elles ont gagné 3-0.
3-0 à chaque fois.
Contre Monaco. Et le seul match qui ne gagne pas 3-0, c'est à Tremblay qui était co-leader à ce moment-là. Elles sont donc premières de leur championnat d'élite poule basse, je te vois.
Voilà.
Et
merci de le préciser.
Et elles sont, alors oui, c'est clair.
C'est la quatrième division en fait.
C'est la troisième, je crois.
Oui, c'est la troisième, mais poule basse, donc elles peuvent pas monter en deuxième. Donc en fait, c'est du remodelage de division fait cette année.
Déjà l'année dernière, il y avait eu des histoires où les poules étaient complètement déséquilibrées.
L'année dernière, il y a eu ce souci-là. Donc pour régler ce souci-là, on a créé du coup une troisième division poule basse. Donc les comètes n'ont pas perdu, entre guillemets, elles se sont maintenues. Mais cette année, elles ne peuvent pas monter en deuxième division, quoi qu'il arrive cette saison. Donc, comment considérer que c'est une équipe en troisième division? C'est dommage. Donc, sincèrement, c'est comme si elles étaient repassées en quatrième division. Donc, évidemment qu'elles roulent sur tout le monde, sachant que le mercato avait l'air d'être assez, assez énorme. On sait le propriétaire qui a pas mal d'argent, en tout cas. Et donc, ouais, c'est de la troisième division remodelée. Mais elles peuvent pas monter en deuxième division, quoi qu'il arrive.
Parce qu'elles sont, quand même au-dessus.
Elles battent tout le monde. Elles ont une meilleure équipe que l'année dernière, et l'année dernière, elles s'étaient déjà maintenues. Et aujourd'hui, elles jouent contre des équipes qui s'étaient pas forcément maintenues l'année dernière.
Quand elles battent l'AS Monaco qui est venue à l'Argonautes, on avait déjà pu en discuter un petit peu. Avec le coach qui m'avait dit qu'elles n'étaient pas venues au complet. Et puis, par contre, aucune excuse pour Tremblay. Avec chez qui elles ont été gagnées 3-7 à 1 avec la manière. Et elles sont entrées dans leur Coupe de France. C'était contre Saint-Barthélemy d'Anjou, l'équipe de Prénat. Donc, c'était évidemment deux mondes qui se rencontraient. Donc, elles ont gagné 3-0. Et donc, elles sont premières avec 3 points d'avance sur Monaco et 4 sur Tremblay. Voilà, je voulais faire ce petit...
Donc, potentiellement, on est bien d'accord que... Là, si elles montent en fin de saison, elles arrivent en
élite poule haute.
troisième division.
Troisième division, voilà. Poule haute.
Donc c'est, en fait, je trouve ça assez dommage. Et surtout que, enfin, ils y sont allés avec de l'ambition cette année. Donc, je sais pas comment s'est passé les réunions sur la fédération, quelle équipe est allée en poule basse, quelle équipe était en poule haute. Je sais pas très bien comment ça a été décidé, sachant que les Comètes ont un bon bilan financier, je pense.
Ouais,
en tout cas, son propriétaire est assez riche pour ça. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais ça fait le plein de confiance parce que l'année dernière c'était très compliqué quand même, à part les phases de repêchage entre guillemets de maintien, parce qu'il y a eu une phase spéciale maintien, bah, ils n'ont pas gagné de l'année hein, quasiment, donc là mettre des 3-0 à l'Argonaute c'est pas mal et,
ouais, ça va leur faire du bien,
ouais, puis, moralement
il faut se projeter avec l'arrivée d'un nouveau coach et une équipe qui a été globalement, remaniée en long et en large et en travers
avec des internationales, enfin, si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas.
L'entrée est gratuite à l'Argonaute.
L'entrée est gratuite
et,
en plus.
Et le spectacle est intéressant et ça joue.
Et vous allez voir Pierre en plus. Enfin, sincèrement, même si vous n'aimez pas le volley, au moins pour lui.
Au moins
vous
pour
lui
moi.
Dites bonjour.
Au moins pour moi, ça me flattera. Et puis, non, vraiment, c'est intéressant ce qu'elles produisent. On espère les voir continuer de grimper.
En Ligue des Champions, je pense.
Ouais, ouais, l'année prochaine. L'année prochaine, championne
d'Europe. On enverra un mail.
Ouais, c'est ça, pour participer. Voilà, c'était mon petit point parce que les Comètes elles sont intéressantes cette année.
Et Chartres rugby,
alors je vais parler de Chartres si vous voulez, mais je vais commencer par le volley à Chartres parce que c'est ce qui est le plus intéressant.
C'est vrai que tu commentes
le volley à Chartres et
dis-nous ce qui s'est passé.
Équipe très intéressante cette année, elle joue la montée en 3ème division. Elles sont l'équipe de Chartres.
Les filles
non,
ou
les garçons?
Ah oui, les garçons.
L'équipe,
okay. L'équipe joue la montée.
Exactement.
Okay, ça marche.
Et ils sont premiers. Alors sur un concours de circonstances, puisqu'en fait ils sont au coude à coude avec Laval et Meudon. Sachant que
Meudon, de grosses équipes,
n'est-ce pas? Meudon qui est en entente avec Boulogne-Billancourt qui est dans la division du dessus, donc qui ne peut pas monter. Et donc pour l'instant, Chartres est en train de faire un sans faute, notamment à domicile. J'ai cru entendre que c'était grâce à un commentateur qui met une ambiance de feu. C'est pas mal ce que produisent les joueurs chartrains. C'est un club familial, c'est super intéressant d'y aller le week-end.
Puis c'est proche en plus.
Enfin, c'est proche de chez moi, ouais.
Tous ceux qui nous écoutent savent qu'ils peuvent y aller.
Non, mais c'est intéressant pour les Orléano-Chartrains qui nous écoutent.
C'est vrai, il y en a beaucoup en plus à l'université,
Ouais, dont moi du coup. Et c'est intéressant le volley parce que je me renseignais, il y a peu de volley masculin à Orléans. On a des équipes en N3, mais c'est de la 5ème division. On a Fleury, on a Saint-Jean-de-Bray, mais le volley à Orléans n'est représenté que par les Comètes. Donc c'est un peu dommage. Après, le volley, on le sait, c'est un sport qui est pas vraiment démocratisé en France.
Ouais, qui est très niche.
Ouais, complètement. Alors il y a l'équipe de France qui était venue en 2023 et
qui
va revenir.
Champion olympique surtout.
En plus. Qui revient en 2026 pour la Ligue des Nations, qui reviendra à Comètes. Il y a 8 équipes internationales qui viendront disputer un championnat sur 3 jours, je crois. Et pour parler du rugby à Chartres, ça se passe très bien. L'équipe réserve a gagné ce week-end son 3ème match de la saison. Et l'équipe première a battu l'Heureux, qui était leader de la poule invaincu.
Invaincu,
dans un match aux conditions climatiques compliquées. Mais,
enfin, comme partout.
C'est, ouais, comme partout. Hein,
le match de l'USO contre Versailles, parce que je ne sais pas si Guillaume en a parlé.
On n'a pas
parlé
de dire, ils sont sur 3 victoires consécutives.
Il n'a pas fini le.
3 victoires consécutives.
Dont une contre Versailles. C'était vendredi soir, le match contre Versailles, c'était... Alors, pour les commentateurs, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, etc., il y a des gens qui ont regardé le match sur YouTube, et c'est vrai que sur YouTube, on ne voyait rien, mais je vous dis sincèrement rien, c'était rien du tout, parce qu'en fait, la caméra était au-dessus, au niveau des tribunes, etc., du coup, il y avait le brouillard qui cachait littéralement tout, c'est-à-dire que les 15-20 dernières minutes, les commentateurs n'ont pas commenté le match, parce qu'ils ne voyaient pas les actions, et donc, en fait, nous, on a eu de la chance, parce que du coup, pour faire les vidéos en bord terrain, il n'y avait pas de brouillard littéralement sur la vue des joueurs, sinon on aurait arrêté le match. Mais du coup, les gens qui étaient quelques mètres au-dessus ne voyaient strictement rien. Donc n'hésitez pas à aller regarder le résumé sur Instagram si vous voulez voir les matchs, parce que sur YouTube, c'est pas disponible.
Ou alors sur une chaîne Instagram.
Ouais, sur YouTube. Sur YouTube, si vous voulez regarder sincèrement le résumé, parce que du coup, j'ai même regardé le résumé du match pour voir ce que ça donne.
J'y suis là.
Et il y a que les doubles arrêts de.
On n'y voit rien.
Le double arrêt de Charlie Jean. Il y a peut-être le dernier but de l'USO à la fin, mais après, il n'y a pas d'autre image. C'est-à-dire que ça s'arrête à la 65e.
C'est terrible.
Il faut se dire qu'à la fin, c'était. Ah non, mais sincèrement, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a un petit résumé qui dure 2 minutes 30, je pense. Parce qu'il n'y a pas la seconde mi-temps, à part le but de l'USO.
Le match, il est arrêté à partir du moment où l'arbitre ne peut plus voir un poteau de corner depuis.
Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'on voyait super bien, nous, en bas.
D'en bas, oui. Bah après,
en fait, d'en bas, on arrivait à voir le but adverse, etc. Parce que bah, le brouillard s'arrêtait quelques ouais. mètres au-dessus, parce que je pense qu'avec l'arrosage, etc., ouais. ça faisait que différence de température, donc il descendait pas. Mais pour les gens au-dessus, c'était un calvaire, je pense, ouais.
Bah, le principal, c'est quand même que les joueurs aient pu voir le match. On le voit sur tes vidéos à toi, on voit pas grand-chose.
C'est le principal.
Franchement, on
c'est
voit vrai. Pas grand-chose.
Ouais.
Et voilà. Et moi, pour avoir vu un match de R3 ce week-end, c'était, pareil,
c'était
la même
chose.
Histoire. En pire, sûrement, c'était... Et puis, il faisait
en
froid
moins
en plus.
Beau.
En moins spectaculaire. Puis, il faisait froid en plus. Ouais. Je sais pas si t'as eu froid à... Alors,
les petits gants, c'était magique.
Il chouchoutait, lui, quand il va à la source.
Non, mais je pense que. Mais en plus, on avait un super match. Sincèrement, c'est
contre Versailles.
Le meilleur match de l'USO cette saison. Mais on en parlera dans le bilan juste après la petite musique.
On se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour pouvoir.
Pour faire le petit bilan.
Pour faire un petit bilan, ouais. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et toujours bien accompagné, Malo, Guillaume et Pierre. Pour finir cette petite demi-heure, on s'apprêtait à faire un petit bilan de cette mi-saison, de pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut dresser comme conclusion en ce début de saison et puis voir ce qu'on peut espérer pour les clubs d'Orléans. Malo, on commence par quoi ?
Bah, comme vous voulez.
Le RCO.
Sur quoi vous voulez démarrer le RCO ?
On parle rugby pour commencer ?
Bah, parlons rugby, parlons du Stade de la Source, parlons du plus grand budget du championnat qui n'est pas premier.
Bam. Alors, d'entrée comme ça, le RCO, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses, début de saison plutôt correct, hein, y a pas vraiment d'ombre au tableau, si ce n'est les déplacements. On l'avait dit en début de saison à l'antenne que de toute façon tous les déplacements seraient compliqués, notamment dans le sud-ouest. Alors ils ont été gagnés à Drancy.
Ouais, ce qui n'est pas donné à tout. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'équipes de la boule qui vont aller gagner à Drancy. Je pensais, moi, en début de saison, que justement ça allait être un match facile, entre guillemets, à Drancy. Mais finalement, ils sont très très durs à les gagner là-bas. En plus, ils ont joué sur un terrain qui était très très gras, très très. Il faisait un temps bien pourri, etc. Ça avait tout du match vraiment piège qui allait tomber dans le combat, etc. Et finalement, ils ont réussi à les gagner à Drancy. Mais c'est vrai qu'après, ils sont très très attendus sur tous les déplacements dans le sud-ouest, etc. Ils ont fait une grosse performance à Mauléon. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a la défaite à Salle en début de saison. De 3 points, il y a la défaite à Saint-Jean-de-Luz aussi, de très peu de points. Hier, ils perdent d'un point à Grouillet, Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils disaient qu'il leur manquait vraiment juste le fait d'être plus efficace en zone de marque pour gagner. Mais sinon, à domicile, pour l'instant, ils sont intraitables. Il va y avoir le gros match contre Salles qui va vraiment permettre de se tester dans un match type de phase finale. Mais sinon, le début de saison est positif. Ils sont deuxième. On sait qu'il faut finir dans les deux premiers pour accéder directement aux phases finales sans barrage. Ils ont eu du mal à avoir une équipe au complet. Il y a eu beaucoup de blessures, etc. Mais bon, ils sont deuxième à un point de Salles, sachant qu'ils y sont allés. En espoir, ils sont premiers très largement. Donc non, pour l'instant, c'est une très belle saison. Surtout que je pense que ça doit être la seule équipe de National 2, je pense, à avoir pris un point de bonus défensif à chaque déplacement. Donc ça montre quand même que même s'ils ont du mal parfois en déplacement, tu restes quand même très très dur à aller battre, même hors de tes bases. Donc c'est quand même très très bien.
Est-ce que tu penses que la réception de Valence d'Agen au Stade de la Source est une réussite? Est-ce que il y a encore minimum, on le disait, deux réception au Stade de la Source. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'avoir délocalisé ce match à la Source?
Le match en lui-même était très bien. Il y avait beaucoup de monde, un peu moins de 5000 personnes, on l'a dit au début. Le match était assez spectaculaire. C'est toujours mieux, je pense, en hiver qu'à Garcin, parce qu'à Garcin, on sait qu'il n'y a pas de toit, donc on est un peu... On dépend aussi de la météo. S'il fait beau, il y a du monde. S'il pleut, on sait qu'il y a eu un match, je crois que c'était contre Anglette, où il faisait une météo très pluvieuse, il y avait presque personne. Donc au moins, on s'assure d'avoir du monde. Et puis, c'est quand même un très très beau stade. Un stade comme ça en National 2, il n'y en a pas. Une très très belle pelouse. Donc non, c'est une belle idée. Visiblement, ça avait l'air d'être une très belle réussite au niveau de la billetterie, au niveau du résultat sur le terrain, etc. Donc je pense qu'il y aura encore plus de monde contre Salles le 10 janvier, en espérant que ça puisse se jouer à la Source.
Ouais, parce que le foot, ça a deux minutes quand même.
C'est vrai que le plus grand sport qui existe en France...
Donc on est bien d'accord sur le fait qu'il faut que ce match contre Salles soit délocalisé à la Source.
Idéalement, si le stade est disponible, évidemment, il faudrait que ça ait lieu à la Source. Après, sinon, on ira à Garcin, il n'y a pas de souci. Hein. Mais oui, évidemment. Après, c'est vrai que le match contre Valence d'Agen était un peu particulier. On l'a senti pendant le match. Les joueurs ont eu beaucoup de mal pendant une partie de la rencontre à se mettre dedans. Ils disaient qu'il y avait un manque de repères. Aussi une pression de jouer à la Source, parce qu'on sait que tout le monde en a parlé, la presse en a parlé, les joueurs ont dû en parler, etc. Donc ils ont eu beaucoup de pression sur le match pour bien faire devant le public et pour montrer un peu que voilà, c'était une belle idée. Ils ont eu raison de délocaliser le match. Donc contre ça, il faudra pas tomber dans le match justement où on tombe un peu dans la fébrilité liée à la pression. Mais normalement, en tout cas, ce sera un très très beau match, et encore plus si on peut aller à la Source pour faire ce match-là devant, encore une fois, je pense qu'il y aura environ 5000 personnes, je pense.
Mais en fait, j'ai l'impression que ça soit à la Source ou pas à la Source, le RCO reste quand même favori de tous ces matchs cette saison à domicile, quoi qu'il arrive.
Oui, en début, ils ont joué contre Langon, c'était courant octobre, il me semble, Langon qui descend en National 1. C'était le choc à domicile avec le match de la réception de Salles là, qui aura lieu donc dans un mois. Et contre Langon, ils ont fait un très très gros match. Ils gagnent en leur mettant 40 points, etc. On sent qu'ils sont très très forts à domicile. Ils ont la meilleure attaque du championnat, ils ont la meilleure défense du championnat. Donc on sent qu'ils sont très très en place. Il reste juste à corriger, je pense, à l'extérieur, essayer d'avoir un déclic, notamment sur l'efficacité. Pour vraiment devenir une équipe très très dure à maîtriser, mais pour l'instant c'est vrai que c'est très bon augure pour les phases finales, surtout que le RCO est quand même, je regardais un peu aujourd'hui par rapport à l'autre poule de National 2 paraît quand même assez faible. On a l'impression qu'il y a une très grosse poule justement avec Orléans, Salles et Langon, et à côté une poule plus faible, donc avec c'est Mâcon qui est premier dans l'autre poule,
et Genève
qui est 5 ou 6e de l'autre poule.
Okay.
C'est Mâcon, Rumilly qui est deuxième dans l'autre poule, qui étaient des équipes un peu en difficulté l'année dernière quand ils étaient avec Orléans. Et là, ça, visiblement, ça s'est inversé. Mais je pense que justement, on aura des phases finales avec, en demi-finale, on retrouvera Orléans, Salles, Langon, etc. Mm. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi faire un gros match contre Salles à Orléans pour, en vue peut-être d'un potentiel match en phase finale pour marquer un peu les esprits.
Parce que du coup, le premier de la poule, ils sont quels ? Poule A, poule B ?
Ouais, c'est poule 1-2. Et alors, il me semble, l'année dernière, il me semble que c'était les deux premiers de chaque poule allaient directement en quart de finale.
Ouais, okay.
Et après, ça devait être par exemple, le troisième de la poule 1 recevait le sixième de la poule, etc.
Et après, quelle est la différence en étant premier ou deuxième de sa poule ? C'est extérieur, domicile pour la finale, du coup ?
Non, c'est, alors, ça a changé cette année. L'année dernière, c'était le quart de finale à la maison pour celui qui est pour le mieux classé.
Okay.
Et après, à partir des demi-finales, c'était terrain neutre. Orléans avait joué à Tours contre Niort. Et la finale avait aussi lieu à Tours, c'était Rennes-Niort. Mais cette année, je me demande si ça n'a pas changé et on pourrait recevoir jusqu'en demi-finale. Auquel cas, c'est quand même un avantage énorme.
Et la finale sur un terrain neutre.
Normalement, la finale, c'est
coup,
terrain neutre. Ouais.
C'est un seul match. Et c'est
un seul match sur un match sec, ouais.
Okay,
mais
qui ne
sert pas à grand-chose puisque les deux équipes monteront aux autres.
Ah, les deux équipes montent.
Ouais, okay. C'est ça, c'est la réforme cette année. Parce que l'année dernière, c'était un peu comme en Elite 2 là, au basket. Le vainqueur de la finale montait directement. Mais le perdant avait un access match, un barrage contre l'avant-dernier.
Et donc là, l'avant-dernier descend immédiatement ou il y aura juste plus d'équipes ?
Non,
l'avant-dernier descend.
Les deux finalistes du coup National 2 vont monter.
Ok, donc il faut absolument, donc ta finale, entre guillemets, c'est les demi-finales.
C'est du beurre, mais voilà, il faut accéder
en
finale.
Il faut jouer, faut être arrivé en finale.
Il y aura un bouclier quand même en titre à jouer, mais il n'y aura pas la pression de la montée, entre guillemets.
Il nous reste 19 minutes. Sur quelle équipe, Malo, tu veux faire un petit bilan là, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout le monde.
On peut aller soit les Septors, USO, comme vous voulez. Celui
c'est toi, c'est... vas-y.
On peut, si on peut... De toute façon, on a qui d'autre ? Enfin, on peut faire les deux, sinon.
OLB, ça va être un peu...
OLB,
Septors, USO.
Ok, ça marche. Bah, comme vous voulez, on peut parler très vite de l'USO.
Ouais.
Qui est la petite équipe que j'aime bien suivre chaque année avec le foot, vraiment ce meilleur sport.
Ouais,
début de saison, Qatar, le match contre Sochaux, on s'en rappelle, 5-0. On en pleure encore du 4-0 à la mi-temps, Charlie Jean qui enchaîne les bourdes. Finalement, ça enchaîne Valenciennes, Châteauroux, etc. Et depuis, et bah franchement, c'est très bien. Enfin, j'allais dire c'est pas mal, voire très bien, mais non, en fait, c'est très bien. Puis je trouve qu'on délaisse un petit peu la Coupe de France. Mais Coupe de France, 32e de finale, potentiellement un tour après en 16e, ce qui est quelque chose d'exceptionnel, enfin, d'être aussi haut en Coupe de France, c'est une renommée qui est assez incroyable et pour laquelle on n'espérait pas forcément. Un peu loin, je trouve, des deux premières places qui font directement monter en Ligue 2. La troisième place joue contre le 16e, il me semble, de Ligue 2, justement. Parce que c'est 18, donc c'est 16e. Donc voilà, c'est ça, match aller-retour. Cette équipe de l'USO, on sait que le plus important, c'est vraiment d'enchaîner les séries de victoires. L'USO en national est sur 3 matchs, 3 victoires, dont un 2-0 exceptionnel contre Versailles. C'est la première fois que l'USO bat une équipe qui était mieux classée qu'elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'USO battait les petits, entre guillemets, n'y arrivait jamais contre les gros. Défaite contre Dijon, défaite contre Rouen. C'est peut-être le moment d'annoncer. Ça a été fait le week-end dernier, justement, contre Versailles. Donc, c'était le week-end dernier, mais c'était littéralement il y a deux jours, enfin trois jours. Il y aura un match anniversaire des 50 ans de l'USO, l'Union Sportive Orléanaise. L'année dernière, on a eu le match de la fête d'anniversaire pour les Drouguises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Match exceptionnel. Grande victoire de l'USO, poussée par un stade quasiment plein, fumigène, etc. C'était franchement un match qu'il fallait aller voir. Et donc là, bizarrement, l'USO refait un match anniversaire. L'annonce à la mi-saison contre le leader. Oh là là, comment se donner toutes les
surprise.
Armes. Rouen qui a quand même 8 points de plus que l'USO. Donc un match, c'est le 28 février. On va recevoir à la radio pour ce match un joueur de l'US Orléans. Je milite pour Jérémy Morel, que j'adore. Et donc ça va être le 23 février, je pense. C'est l'émission juste avant. Et c'est la dernière c'est le dernier lundi de février. Donc 23 février, n'hésitez pas à noter cette date. On sera là. Et donc, match très important contre Rouen. Mais avant, il y a donc... je pense sincèrement que cette année peut être exceptionnelle si l'US Orléans bat Dieppe. Le match contre Dieppe est un vrai tournant, dans le sens où se qualifier en 16e de finale, c'est quelque chose d'assez rare. Et ça force, entre guillemets, un tirage assez gros. Et ça peut donner confiance. On pense au Puy l'année dernière, qui est allé assez loin, qui a battu Lyon, qui a battu Montpellier, pardon. Et donc c'était un club de National 2 qui a permis, donc grâce à cette Coupe de France, de se donner un rythme de cadence assez élevé et qui a permis de rouler sur tout son championnat et de venir donc en National cette année. Et si l'USO peut bénéficier de cette Coupe de France pour se lancer, 2026, c'est un premier match à l'extérieur contre Fleury. Fleury qui est littéralement 9e, donc comment bien lancer sa saison. Et je pense que ça passera par Dieppe. Et après, il y a le match, réception de Sochaux et déplacement à Valenciennes. C'est deux grosses équipes historiques en France. Donc je pense que ça va être des matchs très intéressants. Mais j'ai envie de dire un mauvais début de saison dans le jeu et dans les résultats. Et un très bon, très bonne dynamique en ce moment. Et un petit peu comme les Septors, si on peut faire le lien. C'est magnifique, début de saison catastrophique. La différence, c'est qu'ils avaient battu Tremblay, on en a parlé tout à l'heure en Coupe de France, et là une série exceptionnelle. Et on sait qu'un championnat, entre guillemets, se gagne par les séries et par le fait d'être meilleur qu'au début de saison. Ça peut paraître bête, mais je pense que l'équipe qui est championne ou l'équipe qui monte, c'est l'équipe qui est meilleure qu'en septembre. Et ces deux équipes-là, l'USO ou les Septors, dans leur sport et dans leur situation respective, est meilleure qu'en début de saison. Et ça ne donne que du bon. Donc voilà, les Septors qui sont 8e et qui peuvent potentiellement être leaders. Enfin, c'est dingue, ce championnat de Pro League, qui peuvent être leaders à la fin du week-end.
Ouais, ça va être intéressant à suivre ça, de voir. De toute façon, là, c'est l'objectif quand même, c'est de finir le week-end prochain le plus haut possible.
Les Septors, il faut une victoire.
Ouais, il faut une victoire.
Les Septors, il faut absolument une victoire. Vu la série, on le dit. Enfin, les Septors, les seuls qui peuvent les battre, c'est eux-mêmes, entre guillemets. C'est leur force mentale à eux. Mais ils peuvent littéralement battre tout le monde. Et l'exemple de Limoges est le meilleur. C'est-à-dire qu'à part Montpellier et à part Paris, en France, sincèrement, si les Septors jouent le match parfait, il n'y a personne d'autre qui peut les battre. Et quand on est en deuxième division, c'est quelque chose d'exceptionnel. Louis a trouvé la formule, les joueurs ont trouvé la formule. On le rappelle, 40 pions contre Limoges, 40 buts au hand. Normalement, un match, ça se gagne à 33-34 buts. C'est 40, c'est exceptionnel. Et donc là, sincèrement, aucune défense de Pro League ne peut faire peur, mais même à demi-mot aux Septors. Ça promet. Et on l'a dit, les Septors sont à 2 points d'être leader de Pro League, sachant qu'ils sont 8e, donc ça montre le regroupement de ce championnat.
De toute façon, c'était l'objectif pour les Septors en début de saison.
On le rappelle, c'est le plus gros budget du championnat, et pas qu'un petit peu, c'est 2 fois plus que ses adversaires. Donc il y a des joueurs de la formation surtout, c'est ça qui est fort. Les Septors, c'est une équipe très jeune qui va pouvoir se développer à l'avenir. S'ils montent en Star League, il y aura une équipe déjà en place de jeunes qui vont prendre de l'expérience. Alban Simonet a sa place dans toutes les équipes de Star League, et il est aux Septors uniquement parce que il jouait à Nantes. Non, mais c'est sincèrement.
Il a sa place dans toutes les équipes de Star League.
Sincèrement, il a sa place dans toutes les équipes de Star League. Et c'est ce que Louis disait en conférence de presse. Je suis tellement heureux d'avoir un joueur comme ça parce que il a pas pu jouer à Nantes. Nantes qui est l'une des meilleures équipes du monde. C'est-à-dire que Nantes, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était finaliste de Ligue des Champions qui perd contre Barcelone. Enfin, c'est dans le top 5 des meilleures équipes du monde de Nantes. Donc, c'est pour resituer un petit peu. Mais oui, Alban Simonet, à part Paris, Nantes, à sa place littéralement partout. Paris peut-être, mais Paris ne gagne même pas un match en Ligue des Champions. Donc sincèrement, Alban Simonet à Paris, il ferait pas tâche. Il serait pas titulaire, bien évidemment, il jouerait 2-3 minutes, mais il ferait pas tâche. Et là, on parle d'un joueur qui a sa rang et qui est 8e en Pro League. Donc non, c'est la meilleure équipe de Pro League, et c'est une équipe qui fait face à pas mal d'équipes de Star League, dont Limoges. C'est encourageant.
Ils sont plus forts que l'année dernière, les Septors, cette année ?
Début de saison, non. Sincèrement, non. Le début de saison était atroce. faut dire les mots. Ouais. On parlait de Louis d'émission potentiellement. Ouais. Mais les deux matchs qui viennent de nous sortir, Limoges et Pau, c'est les deux meilleurs matchs. Mais il va falloir continuer là-dessus. Et on n'est pas. Sincèrement, si Cournon gagne vendredi, c'est pas affolant, c'est les leaders de Pro League et tu peux perdre un match au palais. On sait jamais trop comment ça peut se passer, mais voilà, tu fais pas d'arrêt, tu replonges un peu défensivement et si en face les contres tu les marques pas, il suffit d'un mauvais soir. Mais contre Limoges, la stat qui est dingue et que personne n'a trop relevé, que ce soit même dans les journaux ou à la radio, Lucas Petit 8/8 au tir. Enfin, il y a un mec qui a pris 8 tirs, donc c'est un ailier, et il met ses 8 ballons. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Et hormis être à une confiance maximale, il n'y a pas d'autre raison qu'un joueur professionnel de handball contre une équipe, contre la 4e meilleure équipe de France, soit 8/8 au tir. C'est fou, ça. Et puis, c'est pas des tirs, les ailiers, c'est pas les tirs les plus faciles. Donc voilà.
Un récap super intéressant de ce début de saison. On a fait le tour à peu près de tout le monde. Alors on a reparlé de l'OLB tout à l'heure.
Ouais, dans, l'OLB, on dans en a notre, parlé un petit peu. Dans bah, l'OLB, il faut continuer les efforts. Ouais, voilà, si ouais, ça devait être
les
une
encouragements.
Note. Ouais, en fait. Les encouragements, mais attention quoi.
Ouais, parce qu'il
faut arrêter les bavardages.
Ils sont quand même obligés de monter cette année. Hein.
Ouais,
s'ils ne montent pas cette année, ils ne monteront jamais. Hein.
Et ça passe dès le 11 en fait. Victoire obligatoire. À Blois, je le dis.
Oui, mais avant, oui. Ah oui, victoire obligatoire
là,
à Blois.
De toute façon, victoire obligatoire pour les prochains matchs.
Il faut éviter de se prendre les pieds contre La Rochelle ce week-end. Il faut.
Ouais. Ouais, je pense que c'est plus les matchs extérieurs qui font peur à La Rochelle à domicile.
Parce qu'en plus, il va y avoir le retour de Germain Castano qui s'est fait un peu mettre dehors. À mon avis, il aura vraiment à cœur de venir battre Orléans ici. Mais oui, c'est vrai que c'est le match contre Blois qu'il va falloir gagner absolument.
Si on devait faire des petites notes de bilan de chaque équipe, vous mettriez quoi? Genre RCO, vous diriez quoi?
Sur 10?
Bon, 8,5.
Ouais, j'allais dire 7,5.
Ouais, avec une petite phrase.
Ouais, intéressant, un conseil de classe en fait. Ouais. Le RCO.
Genre on serait sur un 8.
Ouais, 8. Ouais,
8 en note.
Juste, il faut être un peu. Essayer de. Je sais pas comment on pourrait comparer à l'école, essayer d'être plus précis sur les matchs, être plus efficace,
à la récréation.
Plus tueur,
c'est un élève qui a des facilités mais qui travaille mais qui se repose un peu trop sur ses facilités de l'argent qui est mis par mon président quoi.
Par mon papa.
C'est un peu ça.
C'est l'argent de poche.
C'est un peu ça. Il a le meilleur ordi à la fac mais il se repose un peu dessus quand même.
Ouais, c'est ça.
Ouais, l'USO les Sceptres, je pense que c'est la même chose. Il s'est bien rattrapé.
Ouais, c'est ça.
Il s'est bien rattrapé début de attention en septembre, t'as pas fait des cahiers de vacances mais là ça va mieux.
Il faut poursuivre, en retard.
Faut poursuivre. Voilà, c'est un peu ça.
Il a pas fait de cahier de vacances.
Et après, il y a quoi d'autre? Il y a USO.
Bah, L'OLB.
Et l'OLB, faut poursuivre.
Ils ont une moyenne. Faut continuer,
l'OLB. Parce que je pense que le Blois a plus de chances de perdre des matchs un peu. Enfin, ils ont emmené plein de clubs en prolongation. L'OLB, c'est soit ils perdent de beaucoup, soit ils arrivent à arracher des matchs.
Ouais, la 25 points, c'est quand même beaucoup quand même.
Ouais,
25 points. Ouais, mais au moins, ils l'ont perdu.
Oui,
voilà. Là, on est tous clairs.
Ils
vont se remettre.
Ils ont perdu et là, ils seront invaincus pendant un mois quoi.
Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc, faut poursuivre. Et voilà, les comètes, bon bah.
Voilà.
Dommage.
Faut sauter une classe, quoi.
Les comètes, là, on t'a redoublé
avec une trop bonne note l'année dernière. On fait notre petit jeu.
On fait le programme ou pas?
Oui, il faut qu'on fasse le programme un petit peu. On en a un peu parlé.
Le programme, on l'a fait tout au long de l'émission.
Sincèrement, le plus important, moi, je pense que c'est le foot et le basket. C'est les deux choses qui restent cette année
2025.
Donc, le foot, c'est l'USO qui reçoit Dieppe à 17h30 dimanche. Faut absolument être là si vous voulez. Si vous voulez voir un beau match de foot, je pense que non, sincèrement, c'est 60, enfin c'est pour rentrer en 16e de finale quoi.
Ouais, c'est intéressant.
Mais c'est pour ça que je dis que c'est important.
Après c'est la place de l'USO aussi, hein, je veux dire.
Équipe de national, il en reste deux.
32e de
finale. Oui, mais il en reste trois des équipes
pour
de national
qui visent la montée en Ligue 2.
Ah,
t'as décidé de me contredire
après,
ce soir.
Après, c'est vrai que l'USO, j'allais dire l'OLB, ils ont quand même eu un tirage
assez facile,
d'accord.
Parce que là, ils ont quand même failli se faire sortir
au
dernier
tour. Oui, mais faut en sortir.
Et là, ça aurait été quand
matchs.
Même une honte.
Oui, c'est les plus durs.
Oui, mais je pense que c'est
bien qu'ils soient là.
Sincèrement, je pense que c'est plus dur de jouer une Ligue 2. Enfin, c'est plus dur de jouer une régionale à l'extérieur qu'une Ligue 2 à
l'extérieur. C'était à l'extérieur, c'est des matchs bourbiers, tu peux te faire un piège.
La magie de la
coupe. C'était dans le sud-ouest. Enfin, tu vois, t'as le même truc du RCO, du bus, t'arrives, tu joues contre des boulangers, stade qui est électrique.
Le raccourci est encore très rapide.
C'était quoi? C'était R2
2.
Ah non, c'était N2.
Régional.
Les boulangers de
voilà,
N2.
Voilà, c'est les boulangers de régional. Ah non, on est bien d'accord. Et si, il y a Saran, on en parlait, Cournon, c'est vendredi 20h. Palais des Sports, il y aura du monde si vous avez envie d'être au chaud. N'hésitez pas et ça va être un super match.
On fait notre petit jeu. Malo, on te laisse nous présenter ton petit jeu.
On se laisse présenter le petit jeu, c'est simple. Il y aura une affirmation qui va être dit par un des présentateurs. Du coup, on sait déjà. Faut que je regarde ce que vous voulez prendre. Tac, tac, tac. Qui veut commencer de vous deux pour être pour ? C'est très mal expliqué. Je suis dans ma bulle. Pardon, je vais peut-être finir. Il y aura des affirmations. Il y en a un de nous deux qui sera pour, l'autre est forcément contre. Il y aura un animateur. Ça va changer à chaque fois.
Et on se contredit du coup, c'est ça ?
Enfin, on se contredit, mais on a 30 secondes pour expliquer pourquoi on a raison, entre guillemets. Et donc, on a tous choisi, entre guillemets, une idée. Donc, Pierre, toi, ton idée, c'est que Orléans devrait accueillir plus d'événements sportifs internationaux. Et donc, toi, Guillaume, t'es obligé d'être contre. T'as 30 secondes.
J'ai 30 secondes et top, c'est parti. Je pense sincèrement que Orléans, pour la taille de la ville, a des infrastructures de niveau élite, en fait. Des meilleures villes qui soient en France. On pense aux Comètes, on pense au stade de la Source. Concrètement, entre l'argent et les infrastructures, c'est obligatoire qu'Orléans reçoive plus de matchs, des matchs de gala et des compétitions. On pense à la Ligue des Nations de volley, mais on pense pourquoi pas des matchs de l'équipe de France de foot. C'est un petit peu compliqué. Ou des équipes de France de sport en salle comme le basket ou le
Ok, ouais. Très bien, à toi Guillaume. Ah, c'est dur, la place de Guillaume, ouais. Elle est catastrophique. Allez, 30 secondes.
Alors, je suis d'accord pour le fait qu'il y ait des infrastructures.
Il a pas compris le jeu.
Mais c'est vrai que bon, le stade de la Source, moi, personnellement, il me transcende pas pour accueillir des événements. Je trouve pas que ce soit un stade qui soit déjà magnifique.
Mais il va être refait.
Oh, oui.
Oui, laissons-le.
Déjà, il faut que je trouve des arguments contre. Mais après... c'est vrai que il y a de l'argent, etc., mais mal utilisé quand même.
J'ai choisi la meilleure affirmation, on peut pas la contredire celle-là. On pouvait pas, c'est trop.
Qui veut c'était quoi toi ton pour, c'était quoi ton message?
C'était le stade de la Source, c'est mal exploité.
Bah, du coup, je suis contre, donc c'est toi qui présente.
Moi, je suis contre quoi?
Non, moi je suis contre. Censé présenter le truc, on se l'est tous envoyé, il a absolument pas regardé.
Le stade de la source est un vrai atout, mais qui est mal exploité.
Ah oui, bah
ok,
oui.
Bah vas-y, je te laisse, t'as 30 secondes.
Comme j'ai dit, le stade de la Source, je trouve, d'un point de vue architectural, est pas très beau. Je trouve qu'il est très très mal desservi.
Ouais.
C'est vrai que si on compare aux Comètes notamment, qui a un arrêt tram vraiment à 10 mètres, etc., je trouve que le stade de la Source est mal desservi, c'est compliqué pour y aller. Et c'est vrai que je trouve que le stade de la Source devrait accueillir plus d'événements. On a vu l'équipe de France de foot, je crois, qui était venue, etc.
Les jeunes, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment moi le fait d'aller au stade de la Source qui me gonfle régulièrement.
Pour l'anecdote, la première fois que j'y suis allé, j'ai mis une demi-heure à tourner autour du stade pour trouver le truc parce que je ne trouvais pas
l'entrée.
Ouais, l'entrée.
Non, attends, puis même, il faut y aller en bus, mais c'est le bus 40 qui te dépose une fois toutes les 40 minutes.
C'est mon...
En enfer. Allez, je sais pas qui est-ce qui va aller au stade.
Imaginez, quelqu'un doit défendre ça en 30 secondes. Non, mais en vrai, moi, je suis pas trop d'accord parce que l'USO, bah, déjà, c'est à côté de la fac. Donc, pour tous les étudiants qui nous écoutent, je pense qu'après les cours, surtout un vendredi soir, c'est vraiment le meilleur moyen. Enfin, aller au Palais des Sports, c'est beaucoup plus compliqué quand on finit les cours, sachant que les matchs de l'USO sont à 19h30. Donc, quand vous finissez à 18h, en plus, il y a les frites. Enfin, sincèrement, je sais pas si vous avez déjà goûté les frites
comme
de l'USO, mais c'est exceptionnel. Et non, on l'a dit, ça accueille l'équipe de France, etc. Donc à partir du moment où l'équipe de France veut bien venir à l'USO, que ça soit
stop, je peux t'entendre,
que ça soit la pelouse avec le RCO, enfin je trouve ça magnifique en fait, deux clubs dans un même stade.
Tu nous fais vite ton affirmation.
Qui est contre moi? J'ai hâte. Quelle est mon affirmation? Orléans mérite d'être une équipe de Ligue 1 plus que certaines villes françaises.
Et
certaines villes françaises que...
Il nous reste 1 minute 30 d'émission.
Lance le... Attends, j'ai pas
top, c'est parti.
Sincèrement, Orléans, parce que là on va parler de ville, Orléans en fait est juste une meilleure ville que Le Havre. Sincèrement, à partir de ce moment-là, quand on voit Nice qui se bat tous les week-ends, quand on voit Angers qui met pas énormément de d'envie dans ses matchs chaque week-end, alors que quand on voit Faed El Koumisti à sa place mille fois en en Ligue 1.
Enfin.
Voilà, Le Havre, s'il vous plaît.
Allez, moi, il me reste. J'ai 30 secondes, ça va le finir Havre. en 5 secondes.
Le Havre.
Pourquoi Orléans ne mérite pas d'aller en Ligue 1? Le stade de la source. Voilà, c'est terminé.
Et Le Havre, mais t'es déjà allé au Havre.
Ouais, j'ai déjà été au Havre pour jouer au rugby.
Il est très beau,
le stade Océane, il est magnifique.
Il est très beau, le stade
Et
Océane.
Et tu parles mieux du Havre parce que c'est la première équipe de rugby de France. Ils ont un magnifique stade qui est complètement à la ramasse.
On lâche 15 millions pour le stade de la source.
Oui, il faut encore qu'il soit rénové.
Oui, d'ici là, on se fera.
Oui, mais pas souvent, mais c'est bon. On sera tous sur mon parti. Je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'on va, céder l'antenne à Tentaculation.
Chris.
Et je vous souhaite une excellente soirée sur nos antennes. Et je vous dis bon, à 2026 pour notre première émission, qu'on espère avec un joueur de l'USO, c'est bien ça?
Non, Receptors, il a pas écouté, c'est dingue.
Et les 50 ans, c'est quand?
On l'a dit fin février.
Et
voilà,
on se retrouve début janvier. Ciao, bonne soirée.
A plus. Player with it now, nigga. Player with it now, boy. Radio.